patron te raconte que t'es adroit et gentil. Sois sûr que t'es le nigaud qui fait marcher son bateau. Attends-moi, tigre.
Bienvenue à la complainte du travail.
De l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. L'argent est au bas de l'échelle et le talent part en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, tigre, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
Bon mardi matin à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Bienvenue à La Complainte du Travail, une émission qui vous est présentée par l'organisme Illusion Emploi, un organisme de promotion et de défense des droits des travailleurs et des travailleuses non syndiqués. Le thème de l'émission aujourd'hui, le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels. Ça peut sembler un bien grand mot, mais on va tâcher aujourd'hui de vulgariser un peu tout ce que cela implique. Il faut savoir que vos animatrices de la journée sont Roxane Denigère.
Bonjour.
Et moi-même, Sandy Tremblay. Alors, pourquoi on a choisi de vous parler de ce que nous, on va appeler aujourd'hui le PIDESC? Bien simplement parce qu'on a suivi une formation qui nous a été présentée par Amnesty International sur le sujet. Et c'est intéressant parce qu'Amnesty International est très connue pour sa défense des droits civils et politiques. Alors, ce qu'on entend par droits civils et politiques, c'est, par exemple, un prisonnier qui va être emprisonné pour des opinions politiques. Je me rappelle, entre autres, au Myanmar, un humoriste qui avait fait une blague contre le gouvernement qui avait été emprisonné suite à ça. Alors, lorsque ces droits-là sont bafoués, Amnesty International va, entre autres, faire des campagnes de sensibilisation, ramasser des pétitions pour inviter les gouvernements, inciter fortement, à vrai dire, à libérer les prisonniers d'opinion. Depuis 2001, ils vont agir aussi là, pendant tout ce temps-là là, dans des conflits armés, que ce soit... Tu peux peut-être nous parler de la dernière campagne qu'ils avaient fait en hiver dernier?
Oui, on se rappelle sûrement de la campagne sur les enfants soldats. Cette campagne-là est toujours en continu, sauf que c'est sûr que leur nouvelle campagne, « Un toit, c'est un droit », va prendre de l'ampleur cette année à l'automne.
Et « Un toit, c'est un droit », ben c'est la tournure que prend Amnesty International depuis à peu près 2001, où ils ont décidé de ne plus seulement s'interroger sur les droits civils et politiques, quoi qu'ils ne sont pas nécessairement acquis partout dans le monde, on s'entend, mais d'orienter aussi leur action sur les droits socio-économiques et culturels. Alors, un toit, c'est un droit. On verra tout à l'heure que le droit à un logement abordable et convenable fait aussi partie des droits économiques, sociaux et culturels. Alors, peut-être pour expliquer aux auditeurs et aux auditrices, Roxane, c'est quoi le PIDESC?
Bon, comme tu l'as dit tantôt, le PIDESC, c'est le Pacte international des droits économiques et sociaux et culturels. C'est pas nouveau, ce pacte-là. Elle existe depuis 1966. C'est un pacte donné par un comité de l'ONU qui a été donné à tous les États. Et en fait, certains pays ont décidé de soit l'adopter ou non. Il y a 160 pays environ qui ont adopté le PIDESC.
Ce qui est quand même une belle majorité, là. C'est pas parfait, mais c'est déjà un bon pas.
Oui, mais tout à l'heure, on verra aussi qu'adopter et faire appliquer le PIDESC est deux choses différentes.
Intéressant.
Le PIDESC est regroupé en 6 catégories. Sandy, tu pourras renchérir avec les exemples. Mm-hmm. Donc, toute personne a droit de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté.
Ça peut inclure, entre autres, là, avoir accès à un revenu décent, à des conditions de santé et sécurité dans son milieu de travail, et évidemment le droit de grève, hein, parce qu'on reconnaît le droit à l'association aussi dans le PIDESC.
Toute personne a droit à la sécurité sociale?
Donc, des assurances sociales, des assurances collectives. On peut penser au régime d'assurance-emploi, on peut penser au régime d'aide sociale pour faire en sorte qu'on ne laisse pas un citoyen ou une citoyenne démuni avec absolument rien pour survivre là, au cours de sa vie.
Puis aussi, ça regroupait le droit au mariage. Et ça, c'était intéressant parce que durant la formation, on voyait que le droit le moins respecté, c'était celui-là.
Encore pour beaucoup de femmes, hein?
Puisque les mariages sont encore forcés aujourd'hui. Sinon, il y avait le droit à un niveau de vie suffisant pour soi-même et sa famille.
Ça l'inclut. Évidemment, moi, je donne quelques exemples. On s'entend que ces droits-là, quand on lit le PIDESC, qui sont beaucoup plus étoffés, mais ça inclut le droit à un niveau de vie suffisant, avoir accès à de la nourriture de qualité et abondante, d'avoir accès à des vêtements et d'avoir accès à un logement, comme on en a parlé tantôt, convenable.
Il y a aussi le droit au meilleur état de santé physique et mentale possible.
Intéressant parce qu'on reconnaît ici que tout le monde ne naît pas avec la même force physique. Il y a des gens qui vont naître avec un handicap. C'est pas tout le monde qui a la même qu'on ne part pas tous sur ce droit-là, on ne part pas tous égaux. Par contre, le droit au meilleur état de santé, ça veut dire qu'on a tous le droit d'avoir des mesures d'hygiène accessibles, d'avoir des soins médicaux également. Alors, il y a beaucoup de pays, même très développés, qui pourraient se regarder un petit peu le nombril là-dessus.
Toute personne a droit également à l'éducation.
C'est encore une fois un droit qui est très intéressant. Ça, ça inclut entre autres le droit à un enseignement primaire obligatoire et gratuit. Et il est même inscrit dans le PIDESC, lorsqu'on parle d'enseignement secondaire et professionnel et supérieur, qu'on doit tendre à rendre celui-ci accessible pour tous et toutes. Et, entre parenthèses, l'instauration progressive de la gratuité scolaire, qui est un débat qui est en cours depuis déjà plusieurs années, même chez nous.
Et le dernier droit, participer à la vie culturelle et bénéficier des bienfaits de la science et de la culture.
C'est une chose d'avoir des grands chercheurs, d'avoir des gens de théâtre pour nous faciliter la culture, mais il faut premièrement que le respect de la liberté de pensée des auteurs soit respecté. Hein, quand un auteur peut dire ce qu'il veut, même si ce n'est pas nécessairement en lien avec la philosophie d'un gouvernement ou quoi que ce soit. Et il faut rendre accessible cette culture-là, que ce soit scientifique ou culturelle. Il faut faire en sorte que les gens, même à faible revenu, aient la capacité d'utiliser cette science et cette culture-là. Alors, tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait environ 160 pays qui ont adopté le PIDESC, donc qui ont signé en disant « ben moi, je m'engage à faire respecter ces droits-là ». Juste vérifier avec toi, Roxane, ce dont on vient de parler, ces droits-là, est-ce que c'est la même chose que la Déclaration universelle des droits de l'homme? On entend souvent parler de la Charte là, universelle des droits de l'homme. C'est-tu la même chose?
Non, c'est pas la même chose. En fait, la Déclaration universelle des droits de l'homme est apparue en 1948, puis le PIDESC est apparu en 1966. Donc, le PIDEX est venu renchérir la Charte
universelle des droits de l'homme.
Oui. Parce que, comme tantôt on le disait, dans le fond, si je prends par exemple la santé, tout le monde avait le droit à la santé, sauf qu'on ne reconnaissait pas à ce moment-là le droit à la santé mentale. Donc, on voit qu'avec les changements qu'il y a eu dans notre société, on a été en mesure détailler les droits.
Est-ce que je me trompe ou si ça vient aussi identifier à l'État qui l'a ratifié ce qu'elle doit faire pour s'assurer que ce droit-là soit bien satisfait. Entre autres, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, en 1948, on parlait à un droit à l'alimentation. Mais par contre, dans le PIDESC, on vient dire à un droit à une nourriture suffisante. C'est une chose d'avoir accès à l'alimentation, mais il faut qu'elle soit en quantité suffisante et en qualité suffisante aussi. Alors, dans chacun des droits, il y a des ajouts qui ont été faits pour renchérir sur la force de ce droit-là. Alors, on parle beaucoup de droits, là, ça c'est intéressant, on a peut-être sauté une petite étape. C'est quoi un droit en général?
C'est plus que des inspirations, c'est plus qu'un besoin. En fait, je te dirais que c'est une nécessité. Si on reconnaît des droits aux êtres humains, on reconnaît la dignité humaine. Ça, c'est-à-dire qu'on reconnaît les égalités entre les humains, on reconnaît qu'on est humain. Tout à l'heure, je n'ai pas souligné, mais si on regarde la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est apparue suite à la Deuxième Guerre mondiale. Ça a pris une catastrophe pour qu'on s'aperçoive qu'on a les droits, finalement.
Intéressant.
Les droits, ils sont égaux. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il a plus le droit de manger, qu'il a plus le droit à la santé, puisque, entre autres, les droits, ils sont interreliés.
Donc, on ne pourrait pas dire à quelqu'un, écoute, je vais donner le droit de manger, je vais m'assurer que tu as de la nourriture, que tu as un logement, mais par contre, je m'excuse, je n'aurai pas assez d'argent, je ne te donnerai pas le droit d'avoir accès à l'éducation. C'est dans ce sens-là. On ne peut pas prioriser un droit au lieu d'un autre.
Puis les droits sont indivisibles, justement. Puis on ne peut pas dire non plus, les lundis, vous avez le droit de manger, les mardis, vous n'avez pas le droit. Si on reconnaît un droit, il faut que le droit soit permanent.
Il faut que le droit soit permanent. Et j'imagine que quand un État ratifie le PIDESC, le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, ça vient sûrement avec des obligations, ça.
Exactement, puisque si on reconnaît un droit, il faut qu'il soit respecté. Et l'État, actuellement, c'est lui qui a le plus de pouvoir pour faire respecter ces droits-là.
Alors, j'imagine qu'on doit retrouver dans le monde 160 pays où tous les droits sont respectés de manière parfaite à 100% comblée. Tu n'as pas de données pour nous qui vont venir nous jeter à terre en nous disant « Mon Dieu, ces droits-là ne sont pas respectés encore en 2009 ».
Désolée pour les utopistes, mais je vais vous faire un petit topo de ce qui se passe dans le monde actuellement. Il y a plus d'un milliard de personnes qui sont frappées par la faim dans le monde. Il y a plus de 121 millions d'enfants d'âge scolaire qui ne sont pas scolarisés. On s'en doute bien, deux tiers d'entre eux, ce sont des filles.
Mm-hmm.
toutes les trois secondes qu'elle part dans quelque part dans le monde, la pauvreté a-t-il un enfant? Puis un portrait malheureux pour le Canada. Au Canada, le taux de la pauvreté de tous les groupes d'âge est le même qu'il y a 25 ans.
Donc, il n'y a eu aucune amélioration. On aurait beau penser que le gouvernement a fait, que nos gouvernements qui se sont succédés en 25 ans ont apporté beaucoup d'améliorations, le taux de pauvreté est resté le même.
Malgré les rapports de l'ONU qu'il y a à chaque 4 ans, si je me trompe
oui,
pas.
Oui, autour de ça.
Mais malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ONU peut faire uniquement des recommandations et qu'elle ne peut pas forcer un pays à changer.
Et ça, est-ce que je me trompe ou c'est la principale critique qu'on pourrait apporter à ça, c'est de dire c'est une bien belle instance. L'ONU, en passant, c'est l'Organisation des Nations Unies. Là. C'est un paquet de pays qui se réunissent ensemble et qui votent des recommandations justement pour inviter les États à améliorer les conditions de vie de leurs citoyens et de leurs citoyennes. Mais je pense que la principale critique qu'on peut faire, c'est que ça n'a pas un appui juridique. Ça ne peut pas arriver avec des amendes. Ça ne peut pas pénaliser un pays. Donc, super, on émet des recommandations, mais si ça ne s'applique pas, on n'a pas rien pour... ça n'a pas de dents, comme
c'est
on
ça,
peut dire.
Pourtant, l'ONU, ça coûte quand même des sommes.
Importantes, quand même. C'est oui. Des dignitaires qui sont assez bien payés.
Oui. Donc, c'est à revoir le rôle de l'ONU. Donc, est-ce qu'on a le temps d'enchaîner avec est-ce qu'il y a un décalage entre les droits et la réalité?
Oui, on a le temps, on a encore 2 minutes.
Ah,
alors, comment ça se fait qu'il y a des droits qui ne sont pas respectés? Elle vient d'où cette inégalité-là?
Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un choix politique. C'est beaucoup les lois du marché, l'idéologie néolibérale qui a pris beaucoup d'ampleur. Les pays du Nord qui font des promesses d'aider les pays pauvres qui font qui agissent pas nécessairement.
On donne un exemple concret. Le Canada va donner des millions de dollars à un pays d'Afrique, je n'ai pas de nom en particulier, en leur disant bien, on va vous aider, on va vous apporter une aide alimentaire, on va vous envoyer de la nourriture. Par contre, en contrepartie, on va choisir c'est quoi la nourriture qu'on vous envoie, puis on va vous envoyer des aliments qui sont fabriqués au Canada pour stimuler notre économie canadienne. T'sais. Alors, ce n'est pas du donnant-donnant, là. C'est un peu. C'est du donnant-donnant. Il faut que ça me rapporte aussi. T'sais.
Puis nous, c'est, on n'agit pas parce qu'on croit que la pauvreté semble une fatalité. Elle existe depuis toujours. Est-ce qu'elle va être là depuis toujours? Nous, c'est sûr qu'on pense que non.
On veut pas. En tout cas, on lutte pour que non.
Puis on vous expliquera pourquoi après la pause. Mais considérez que le problème est individuel.
Ça fait pas avancer les solutions, ça. Alors, on revient sur notre sujet tout à l'heure. On se laisse en musique avec la classe moyenne du groupe Longue Distance.
Oh, CFLX FM
95,5. CFLX.qc.ca.
Rebienvenue, j'espère que vous avez apprécié la chanson de longue distance qui s'intitulait « La classe moyenne ». Alors, on vous rappelle qu'aujourd'hui, à la complainte du travail, le thème de l'émission, c'est le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, qu'on appelle en bon français le PIDESC, avec notre manie de raccourcir tout ce qui peut être raccourci. Alors, Roxane, juste avant la pause, on parlait qu'il y avait un décalage entre le fait de reconnaître qu'on a des droits et le fait de donner tout ce qu'on peut à nos citoyennes en tant qu'État, pour que ces droits-là soient respectés. On a vu qu'il y avait des choix politiques qui n'étaient pas faits, qui étaient beaucoup en lien avec le fait que on veut, c'est les règles du marché, on veut faire de l'argent. Donc, oui, il y a des inégalités nord-sud qui en découlent. On a vu aussi que beaucoup de personnes et beaucoup d'États pensent que la pauvreté, c'est une fatalité. Donc, il n'y a pas moyen de s'en sortir de toute façon. Il y aura toujours des pauvres, ce qui n'est pas nécessairement notre opinion à nous. Mais allons plus en profondeur. C'est quoi les obligations d'un État quand on signe et on ratifie le pacte international?
Donc, ce qu'on disait tantôt, c'est aussi que quand on reconnaît des droits, on a des obligations.
Ouais.
On n'a pas obligation de résultat. Par contre, les États ont obligation de mettre en œuvre des actions pour faire respecter les droits.
Okay. On va donner un exemple concret du genre, si vous êtes dans un pays de là, j'ai toujours un pays d'Afrique comme si c'était les seuls pays qui avaient de la misère à faire respecter ces droits-là. Là. Mais vous êtes dans un pays où il y a une aridité énorme puis vous n'arrivez pas à faire pousser quoi que ce soit. Donc, offrir de la nourriture à vos citoyens et citoyennes, ce n'est pas facile. C'est-à-dire, vous devez faire en sorte de rendre cette nourriture-là accessible. Mais même si dans l'immédiat, vous n'y arrivez pas parce qu'il y a des sécheresses ou quoi que ce soit, vous n'avez pas les ressources humaines et nécessaires, matériel, financières et autres, vous devez tendre vers l'accessibilité de ce droit-là. C'est dans ce sens-là?
C'est dans ce sens-là.
OK.
Donc, il faut appliquer le PIDESC aussi rapidement possible, mais appliquer progressivement le plein exercice des droits par des moyens appropriés comme des lois, l'éducation, puis aussi des mécanismes de plainte, comme par exemple, si on prend au travail le harcèlement psychologique ici, au Québec, au Canada, il y a des mécanismes de plainte, sauf que c'est très difficile de porter plainte pour une personne qui a du harcèlement psychologique puisqu'elle n'a pas de soutien et qu'en même temps, on essaie de régler à l'amiable,
idéalement,
entre guillemets, ouais. Puisque les indemnités sont vraiment en dessous de ce qu'on pourrait avoir. Là.
Si on allait au juridique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est pour un pays, c'est de prendre en considération que on ne peut pas prévenir tous les abus en milieu de travail, que ce soit au niveau du harcèlement psychologique, ou on ne peut pas prévenir qu'il n'y aura pas des personnes itinérantes dans notre société, au niveau du droit au logement. Par contre, on peut appliquer des mécanismes de plainte qui font en sorte qu'une personne que ce droit-là, auquel elle n'a pas accès à ce droit-là, peut faire appel à ce mécanisme de plainte-là et faire reconnaître ce droit-là pour que sa situation change. Fait que c'est déjà un pas, mais je suis d'accord avec toi, c'est loin d'être parfait, puis il faut donner un coup de barre.
Et comme on disait tantôt aussi, dans le fond, le PIDESC indique la barre à atteindre à chaque État. Pour chaque pays, il y a un document qui est fait. Donc, chaque pays sait à quoi s'attendre, puis ils ont même les moyens. Ils ont à peu près tout cul dans le bec.
Donc, c'est en fonction de la capacité de chacun des États à rendre ces droits-là accessibles.
C'est ça. Et c'est aussi inscrit qu'il ne faut pas prendre de mesures régressives, comme par exemple couper dans les services sociaux, dans les services de santé, dans
Le gouvernement canadien n'a jamais fait ça. Le gouvernement québécois non plus. Voyons, là, quel droit on a perdu. C'est pas quand les gens à l'aide sociale ont été coupés de 100 $ quand ils ont décidé que si tu avais un colocataire ou si tu habitais chez tes parents, tu serais coupé de 100 $ que c'est régressif, voyons. Je dis ça en tout sarcasme.
Donc, ça, c'est une infraction au PIDESC.
Exactement.
Comment on peut évaluer si un droit est acquis? Parce qu'on a des revendications, mais à un moment donné, il faut savoir arrêter quand on les a aussi.
C'est ça. Il faut savoir reconnaître que certains des droits qui peuvent, dans un État ou un autre, être acquis. Alors, qu'est-ce que ça prend?
Il faut que les droits soient disponibles, comme par exemple, tantôt on le disait, avec la nourriture, est-ce qu'il y a suffisance de nourriture pour tout le monde? Il faut qu'ils soient accessibles, comme physiquement, est-ce qu'on peut aller se le chercher ou est-ce que c'est sur une île déserte?
Je reviens encore à mon exemple, j'ai toujours le même continent, mais si vous avez accès à l'eau, mais que vous devez marcher 5 heures pour y avoir accès, puis qu'elle n'est pas toujours potable, au niveau de la qualité, au niveau de l'accessibilité physique, ce n'est pas nécessairement génial.
Il faut qu'elle soit accessible économiquement,
mm-hmm.
Donc il faut que ça soit peu coûteux. Il faut que l'information soit là aussi, parce que si on, le service est là puis on ne sait pas, ça ne sert à rien.
Effectivement.
Il faut aussi que ça soit acceptable, autant au niveau de la qualité, comme tantôt on parlait de nourriture avariée, et culturellement aussi, il faut que ça soit accessible, comme on ne donne pas de part à des communautés musulmanes. Oui. On a beau à les aider, mais...
Et ça, c'est intéressant, Alexandre, ce que tu amènes là, parce que ça amène tout le principe de l'aide humanitaire. Tu sais, on parlait de la nourriture en quantité suffisante. Bien, on reconnaît aussi qu'il y a des pays qui n'ont en surabondance de la nourriture, puis qu'on peut très bien exporter cette nourriture-là, c'est pas nécessairement de la nourriture, ça peut être en argent aussi, là. Des fois c'est mieux comme ça d'ailleurs. Mais ça reconnaît dans le PIDES qu'un État doit aider un autre État un peu défavorisé par rapport à elle à rendre accessibles ces droits-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour... sensibiliser notre gouvernement ou sensibiliser un autre gouvernement si on touche plus à l'aide internationale dans nos priorités, qu'est-ce qu'on peut faire?
C'est sûr que le mot qu'on va employer, c'est militer. Est-ce que tout le monde se reconnaît dans la militance? Peut-être pas avec ce mot-là, puisque ça vient du mot militaire. Par contre, ce que ça veut dire, c'est argumenter, participer, agir et soutenir. Donc, si vous vous positionnez contre la pauvreté, vous êtes un militant.
OK. Intéressant, ça. On vient de rassembler pas mal plus de monde. Pas obligé de sortir dehors à moins 40, nécessairement, mais il y a d'autres moyens qu'on peut prendre. Et évidemment, de sortir dehors à moins 40, ça donne toujours un coup de pouce. Alors, selon l'approche d'Amnesty International, l'approche militante est basée sur quoi?
Elle est basée sur l'égalité des humains, sur les droits universels, indivisibles, interdépendants, comme on disait tout à l'heure, sur le fait que les droits entraînent des obligations, sur le fait que les droits se réfèrent à des normes internationales, sur l'action qui se fait dans le respect des droits et la liberté d'autrui, et ça doit être pacifique.
Intéressant. Et juste pour inciter les gens, vous pouvez toujours, quand on parle de militer, vous pouvez faire appel à Amnesty International. Amnesty International, c'est souvent par le biais de campagnes de pétition. On va vous envoyer des cartes postales que vous devez faire signer aux gens que vous connaissez. Donc, ce qui est intéressant par ce moyen-là, c'est que vous sensibilisez les gens aussi. À chaque fois qu'on fait signer une pétition, c'est parce qu'on a abordé une problématique, on a sensibilisé la personne à qui on s'est adressé, on a parlé. La personne, même si elle n'accepte pas de signer la pétition, elle a au moins entendu au moins une fois le message dans sa vie. Et ça, c'est déjà un gros acquis. Alors, puis il y a d'autres choses aussi que les gens peuvent faire. Il y a d'autres moyens de militer, là. On en connaît d'autres, des organismes qui font de la militance.
Comme nous, vous pouvez vous joindre à nos luttes. On parle souvent par l'émission de radio, des activités qu'on fait aussi. Vous pouvez venir vous informer si vous êtes intéressé à devenir membre. Nous avons un site Internet également.
Ils ont emploi. Nous, c'est sûr qu'on travaille beaucoup plus sur le droit au travail. On s'entend, tantôt, tu parlais d'un travail là, librement choisi avec un revenu décent et tout. Nous, c'est notre principal axe. Mais on va soutenir aussi un paquet d'autres luttes qui sont la lutte au logement, la lutte au revenu décent avec Action Plus qui travaille auprès des gens qui sont à l'aide sociale. Alors, vous pouvez vous joindre à nous, puis inquiétez-vous pas qu'on va vous référer, on va vous donner un paquet de places où vous pouvez aller lutter. Alors, qu'est-ce qui favorise les gains? C'est une chose de militer, mais à un moment donné, il faut avoir des récompenses. Là. Qu'est-ce qui favorise les gains?
Bien, l'appui de la population.
Ouais, donc, plus on est nombreux, mieux c'est.
Oui, c'est ça. Il faut qu'elle se manifeste parce qu'un appui moral, c'est bien, sauf que si l'État ne le sent pas, nos gains vont tarder à venir.
Et ça, souvent, c'est avec l'aide des médias. Si je ne me trompe pas, ça l'aide toujours.
Il y a la détermination, la solidarité, la légalité ou la légitimité de l'acte. Si ce n'est pas possible que ça se fasse dans l'égal, bien... La légitimité. J'ai un exemple là-dessus.
Vas-y.
Comme par exemple pour les logements sociaux. Quand les gens occupent des logements qui sont inhabités depuis quelques années.
Ça s'est vu en France en 2007, si je ne me trompe pas.
Également.
Où les gens ont squatté pendant tout un hiver des édifices le long de la Seine, si je ne me trompe pas, ou du canal. Enfin, peu importe. Là,
à Pointe-Saint-Charles, je crois, à Montréal cet été. Ou est-ce qu'il y a des gens qui ont occupé un logement? Donc, ça, c'est sûr que c'est, étant donné qu'on considère la propriété privée, c'est une mesure illégale. Par contre, c'est légitime puisque ce logement-là est inhabité, il n'est pas utilisé, puis il y a des gens durant ce temps-là qui sont dans la rue.
Et qu'on pourrait très bien le transformer en logement social.
Donc, c'est là qu'elle vient la légitimité. Sinon, la crédibilité, les appuis locaux, comme on disait tantôt, l'intérêt des médias, le soutien international, la création de réseaux.
Évidemment, on peut penser, ne serait-ce qu'au niveau du logement, il y a le réseau NOVOX qui réunit l'ensemble des organismes de niveau international dans tous les pays qui travaillent à rendre plus accessible le logement social.
L'ouverture à négocier et la persévérance aussi des gens.
Oui, parce que c'est rare qu'on sorte dans la rue puis que le lendemain, on ait un gain. Hein. C'est des choses qui se font quand même sur du long terme. On souhaiterait une meilleure réception pour que ça se fasse plus rapidement. Peut-être laisser les gens sur une belle citation d'Albert Camus avant qu'on se quitte.
Oui, ça démontre vraiment que les droits sont interreliés. C'est si quelqu'un vous retire votre pain, il supprime en même temps votre liberté. Mais si quelqu'un vous ravit votre liberté, soyez tranquille, votre pain est menacé, car il ne dépend plus de vous et de votre lutte, mais du bon plaisir du maître.
Alors, vous n'avez peut-être plus à lutter, parce que là, vous devez surtout lutter pour votre liberté, mais vous n'avez plus aucun droit, parce que là, tout dépend d'une tierce personne.
C'est ça. Donc, souvent, on est maintenu en état de survie, ce qui fait qu'on n'est pas porté à revendiquer nos droits. Par contre, il y a beaucoup d'améliorations à faire, puis je crois que ça, tout le monde est un peu conscient.
Et tout le monde est concerné. Alors, peut-être, avant de se quitter, rappeler nos coordonnées aux auditeurs et aux auditrices.
Illusion Emploi, ou par téléphone, 819-569-9993.
Au bureau, au 187 rue Laurier, bureau 214 ou 216, on a deux locales. Et par Internet, on va y aller à deux, www.illusionemploi.com. illusionemploi.org. Je l'ai fait toute seule. Alors, le sujet de la semaine prochaine, on va vous parler
du travail invisible.
Oh, ça va être très intéressant, ça. Alors, on vous laisse là-dessus et on vous retrouve mardi prochain à 9h30.